I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Laetitia Béraud. Bienvenue dans Minute Papillon avec notre rendez-vous hebdo Minute Présidentielle. Dans cet épisode, on va parler d'images dans les campagnes électorales, de ces mots dont on dit qu'elles valent mille mots. Comment travaillent les photoreporters avec les candidats et leurs équipes ? Quelles sont les libertés, les contraintes dans une présidentielle ? Que racontent ces photojournalistes avec leurs clichés et comment ? Quelle différence entre un photojournaliste et un ou une photographe attachée à une équipe de campagne ? Est-ce que la multiplication des images sur les réseaux sociaux ont tué le métier ? Parlons de tout ça avec Denis Allard. Bonjour Denis, qui es-tu ?
Je suis photographe de presse principalement depuis une vingtaine d'années. Je fais des portraits, des reportages à gauche à droite. Et je fais beaucoup d'images politiques.
Et tu travailles où ?
Je travaille essentiellement pour la presse, pour le journal Libération.
Mais tu es ?
Indépendant.
Et ça veut dire ?
Ça veut dire que je n'ai pas de patron. Si j'ai pas envie de travailler, je ne me lève pas le matin. Mais en général, je suis assez fidèle au journal avec qui m'appelle le plus régulièrement et avec qui j'ai beaucoup de plaisir à travailler.
Donc, Libération, que l'on salue.
Salut Libé.
On va parler des campagnes présidentielles, de l'image dans les campagnes présidentielles. Déjà, combien de campagnes présidentielles as-tu suivies ?
J'ai commencé en 2002.
Jean-Marie Le Pen, voilà, Jacques Chirac.
Exactement, j'étais le soir au QG de Lionel Jospin.
Donc 2002, 2007, 2012, 2017, 2022, c'est la cinquième présidentielle pour toi.
C'est bien.
Pour la photographie, comment les campagnes présidentielles diffèrent des autres sujets ?
Une campagne présidentielle, ça se joue sur plusieurs mois, avec des déplacements, avec des rencontres avec tout un tas de gens, avec tout un tas de confrères, et des publications qui s'étalent dans le temps pendant globalement 2-3 mois.
Et c'est quoi l'objectif de la photographie pendant une campagne présidentielle ? C'est quoi ton objectif ? Qu'est-ce que tu poursuis ?
C'est d'assurer un suivi sur un temps plus ou moins long, et c'est de raconter une histoire qui est séquencée. Chaque reportage est un chapitre de cette histoire. Et le bon suivi photographique pour une campagne, c'est de manquer le moins possible de ces séquences-là pour avoir une histoire qui est la plus étoffée possible et qui représente un petit peu le parcours d'un candidat ou d'une candidate à un moment donné de sa vie politique.
D'où ça vient ces séquences ?
Alors ça, c'est le candidat et son équipe qui construit ces séquences-là. Nous, en général, en début de semaine, on a un agenda d'un candidat et qui va nous expliquer que le lundi, il fait une interview à 8h, à 10h, il va aller sur un marché, à midi, il va rencontrer les salariés d'une entreprise, et puis le soir, il va y avoir un meeting, donc il faut organiser un petit peu ses journées en fonction de ça, il faut décortiquer l'agenda de chacun et chacune, et essayer de trouver les temps forts qui vont photographiquement être intéressants. Les meetings, c'est toujours intéressant, les déplacements, c'est toujours intéressant. Et nous, photographes, on travaille, enfin dans un journal, on travaille en lien avec une rédaction, donc avec des rédacteurs, on travaille un petit peu en commun pour savoir ce qui est intéressant de suivre ou pas, pour pouvoir avoir un discours qui est cohérent entre le rédacteur, la rédactrice et la photo qui va illustrer un petit peu l'article dont on va parler le lendemain dans le journal ou sur le site internet.
Il y a différents types de photos suivant les possibilités qu'offrent les équipes de campagne.
Selon le support qui va accueillir ces images-là, on va avoir des images qui vont parfois ne pas du tout se ressembler les unes aux autres.
Par exemple ?
Les photos de la veille vont avoir tendance à être plus utilisées dans les journaux quotidiens. Les magazines hebdomadaires vont avoir un petit peu plus de recul. Et donc les images vont pouvoir être très différentes les unes des autres.
Dans les campagnes présidentielles, alors, il y a des pools. Les pools, qu'est-ce que c'est ?
Un pool, c'est un groupe assez réduit de journalistes, de photographes ou de rédacteurs, de preneurs de son radio, de caméramans pour la télé, qui vont être chargés de suivre au plus près un homme ou une femme politique et ensuite de partager ces images ou de partager ce qui s'est dit, de partager les sons qui ont été réalisés Et tout ça, ça se justifie en général pour, à cause de contraintes d'espace. On nous dit en général, le candidat va aller à tel endroit, c'est tout petit. Donc on va prendre deux photographes, on va prendre deux preneurs de son et une caméra et un rédacteur. Et puis hop, comme ça,
dans en une même fromagerie.
Temps, dans une fromagerie, par exemple. Ce sont des contraintes qu'on trouve essentiellement dans le suivi gouvernemental et présidentiel. C'est-à-dire les poules, en général, c'est pour le président, pour le premier ministre. Les poules, sur les séquences politiques pendant les campagnes, il y a toujours des communicants qui essayent d'en fabriquer parce que c'est une manière plus facile de limiter les questions qui peuvent fâcher ou de, c'est une manière qui a l'air d'être plus facile pour eux aussi pour orienter les images qui vont être réalisées. Mais en général, les journalistes n'aiment pas trop qu'on leur impose de travailler comme ça. Donc, il râle. Le journaliste, il faut savoir, il est très très râleur. Qu'on lui dit qu'il va pas pouvoir faire des photos mais qu'il va récupérer les images de quelqu'un d'autre, il râle. Parce que photographier une campagne, un président, un candidat, c'est écrire quelque chose. Une écriture, c'est personnel. Et l'écriture du voisin va pas forcément être celle qu'on a envie d'utiliser pour raconter son histoire, raconter un déplacement.
Est-ce que tu as déjà été contraint en ces 5 campagnes présidentielles par des histoires de poules, par des histoires d'équipe de campagne du candidat ou de la candidate qui imposait telle ou telle restriction ?
La contrainte, elle est plus fine que ça, je trouve, parce que on cherche toujours à nous imposer certaines images, tout simplement. Quand on réalise un meeting, on est frontalement devant une scène avec un énorme slogan derrière ou avec un décorum qui...
Ensemble, l'union...
Voilà. Mais nous, ça ne nous intéresse pas forcément d'intégrer cette rhétorique dans nos images. Et nous, on n'est pas là forcément pour faire la communication, pour faire ce que voudrait que le journaliste raconte dans son récit.
Est-ce que tu pars en reportage en te disant « je vais faire 7 photos »
J'essaie d'avoir des petits challenges comme ça, en me disant, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de montrer ce soir, avec quel matériel j'ai envie de partir, qu'est-ce que j'aimerais faire comme type de photo. Et donc, dans le choix du matériel, dans le choix de la retouche photo, on arrive au final à réaliser une image qu'on a en tête avant de l'avoir faite.
Un candidat dit agressif, tu vas avant même...
Ouais, on peut, on a un petit peu des... Il y a des codes visuels qui peuvent un petit peu accentuer ce truc, jouer sur le contraste, jouer avec des lumières qu'on va rajouter, avec des flashs, certaines postures. On peut faire dire des choses totalement différentes à une image. Notre façon de photographier, c'est notre vocabulaire.
Et les candidats peuvent refuser quand ils savent que le photographe, c'est tel photographe qui arrive et qui va mettre plein de flashs et d'avoir un contraste très fort. Donc avoir des photos qui peuvent paraître dures.
Alors, j'ai jamais été confronté à un refus comme ça. Après, il y a des, on en revient toujours, les communicants qui sont là, qui se mettent à observer le placement de certains photographes, parfois sur des conférences de presse. Dernièrement, avec Le Pen, dès qu'on se met un peu en contre-plongée, ça râle et on nous demande de nous relever, etc.
Parce qu'on peut accentuer un double, voire un triple menton. Mais ça, c'est pour tout le monde.
Non, alors ça, c'est... Mais justement, ils se trompent. Ils se trompent parce qu'on n'est pas là pour montrer un petit peu des défauts physiques des uns et des autres. Une image en contre-plongée, elle a un impact qui est assez fort. Quand on montrait un homme politique déjà par en dessous, ça les valorise, l'air de rien.
Les équipes des candidats et des candidates proposent aux journalistes et aux photojournalistes une voie tout tracée, de belles images, un beau décorum, une belle estrade et surtout un beau discours que les journalistes sont invités évidemment à suivre. Comment se détacher de cette communication du candidat pour faire sa propre histoire avec son propre libre arbitre et sa propre distance?
Déjà, il faut en avoir l'envie. Il suffit parfois juste de faire un pas de côté, essayer de s'extirper des podiums qu'on essaie de nous imposer. On attrape comme ça des petites choses, souvent pendant les interstices, entre deux séquences. Parfois, juste ce qui va se passer à la fin du discours, comment un candidat va tourner la tête d'un côté ou de l'autre à un moment donné, il va chercher quelqu'un du regard. En photo, c'est pendant ces petits moments-là qu'on peut faire dire beaucoup de choses qui sont totalement ingérables par les équipes de communication. Le regard d'un candidat ou d'une candidate, personne ne peut le gérer. Alors qu'un photographe, avec son appareil, va pouvoir établir un discours qui va être assez intéressant et qui va s'insérer dans une histoire, en parallèle d'un article, etc., etc.
« En 2022, la photographie des campagnes présidentielles est-elle morte? Je m'explique. À cause de la pandémie de Covid-19 depuis 2 ans, de la guerre en Ukraine et aussi et surtout de la multiplication des clichés de tout le temps, partout, sur les réseaux sociaux notamment, mais aussi dans les médias.
Elle n'est pas du tout morte. Il y a une actualité qui est foisonnante. Il y a de la place dans les journaux, à la radio, à la télé, pour la campagne. C'est évident et c'est essentiel. Le problème, c'est peut-être pour un photographe qui était habitué à avoir un temps long de travail, d'avoir des séquences de boulot qui sont beaucoup plus réduites.
Est-ce qu'il est difficile ou il a été difficile de travailler avec Emmanuel Macron et son équipe ?
Avec Emmanuel Macron et son équipe, la complication, ça a été que les situations se sont réduites comme peau de chagrin. Les accès au président directement pour faire des coulisses ou des choses comme ça, des choses qu'on pouvait un petit peu faire pendant les campagnes précédentes, elles ont complètement disparu. Aujourd'hui, ce qui a changé vraiment, c'est qu'un candidat, il est beaucoup plus intéressé par le fait de faire plein de likes sur Twitter ou
Instagram.
Que de faire une photo, une pleine page dans le Figaro, dans Libé ou que sais-je. C'est lui qui choisit le photographe, qui choisit la photo, qui va choisir la situation, qui va choisir le timing de l'apparition de l'image sur le réseau. Donc, il est son propre média aujourd'hui.
Soazic de la Moissonnière, qui est photographe d'Emmanuel Macron depuis 2016. Je reviens sur cette photo où c'est cette série de photos qui ont été prises le 13 mars d'Emmanuel Macron à l'Élysée en suite à capuche avec une barbe de quelques jours, les traits tirés. Des images montrant le président et aussi candidat mobilisé très tard dans la nuit.
Les à côté, ça intéresse les gens. Visuellement, c'est assez fort. C'est des situations qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ça fait du clic. Après, sur ces situations-là, globalement, la référence, c'est Obama. C'est les présidents américains. Ce qui a été accentué par Obama, c'est la communication à outrance de ces moments à côté dont personne n'a... Les photojournalistes normaux n'ont pas accès et qu'on va diffuser comme on le veut sur le réseau. Et Macron a vraiment bien senti ça.
Parce que ces photos ont été distribuées sur le compte Instagram de cette photographe, Soazic de la Moissonnière.
Oui, voilà, qui est aussi très bonne photographe, qui sait ce que c'est une bonne photo, qui a tous les codes de la photographie, qui les maîtrise bien. Mais c'est pas du photojournalisme, c'est pas de la presse. Avec Obama, les images de son photographe qui s'appelle Pete Souza, qui était une référence absolue, étaient régulièrement reprises dans les journaux. Ça posait des tas de débats dans les rédactions. Est-ce que voilà, crise financière égale utilisation de photos comme ça qu'on nous apporte sur des plateaux.
Belles photos.
De très très belles photos, mais qui sont des photos de communication qui sont faites avec des accès que nous aimerions avoir, mais ça reste de l'image de communication qui est faite pour valoriser un candidat et qui n'est pas là pour s'insérer dans un récit journalistique.
Avec une prise de distance.
Avec une prise de distance.
Quelle photo, selon toi, révèle le plus à un moment T d'une campagne présidentielle auprès d'un ou d'une candidate ?
J'aimais bien les photos que j'avais faites de Macron le matin du deuxième tour au Touquet. Il faisait pas très beau, c'était un temps assez gris et il était sorti de son bureau de vote et je le reconnaissais plus. C'est assez rigolo parce qu'à partir du moment où il a été voté, c'était comme François Hollande quand il est arrivé au pouvoir, du jour au lendemain, on s'aperçoit que les gens changent.
Il s'est présidentialisé. Marchent.
Ouais, c'est comme ça qu'on dit, mais moi je trouve qu'ils se raidissent carrément. Ils sont plus naturels, ils changent complètement.
Un peu Playmobil, dans le sens
Playmobil, complètement, un peu Playmobil, exactement. On sent que les vêtements sont beaucoup plus petits et on les voit bouger. Dans les photos que j'avais faites ce jour-là, c'est vrai qu'on le sentait un petit peu. Il y a le regard qui part au loin comme ça, on sent vraiment une
définie. La vision.
La vision, voilà, il faut se mettre.
La France.
La France, voilà, la France. Maintenant, tout est entre mes mains et tout va changer. Et maintenant commence le dur labeur de président de la République. Donc ça, c'est assez rigolo et en image, ça se ressentait.
Merci à Denis Allard pour cet entretien. Minute Papillon avec son point d'exclamation, sa petite vignette bleu ciel, c'est un podcast original de 20 minutes. Vous le retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute en ligne, c'est gratuit, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez nous écrire aussi, nous envoyer des commentaires à audio@20minutes.fr. On se retrouve très vite, d'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes.
The Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes three clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.